Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, c'est le super Catch Up direction SmackDown le 12 janvier 2024 et le Monday Night Raw du 15 janvier 2024. Et pour m'accompagner dans cette double analyse, j'ai avec moi l'ami Géliel. Salut Géliel.
Salut RM, salut à tous. Très content d'être là pour ce SmackDown du 12 janvier qui a secoué dans tous les sens. Et on va vous compter ça avec attention.
Et ouais, on va pouvoir y aller. On est là avec Poleman qui a le micro ce soir. La Bloodline arrive à Lincoln dans le Nebraska. Poleman se défend d'être les méchants de l'histoire. On se souvient l'année dernière, il y a eu du grabuge. Le méchant dans tout ça, mon bon Géliel, c'est Nick Aldis, le général manager, qui a tout simplement balancé le chef tribal dans une configuration inédite hein, pour le champion universel WWE, un Fatal 4-Way au Royal Rumble. Et donc, ça met en péril le règne. Hein. Le titre peut changer trop facilement. C'est la punition, nous dit Poleman. C'est pas Jimmy, les méchants, ni Solo, c'est pas Roman Reigns, c'est pas Poleman, c'est bien Nick Aldis. Nick Aldis, il est là, il est là. Il écoutait ce qu'il avait à dire et il dit, écoutez la Bloodline, ça va, vous n'allez pas encore nous gâcher le main event, car ce soir, vous serez le main event. En effet, AJ Styles, LA Knight et Randy Orton, donc les trois participants au Fatal 4-Way, affronteront ce soir une équipe composée de Solo Sikoa, Jimmy Uso et Roman Reigns. Ah, la foule est en délire. Quoi, Roman Reigns est là? Eh ben non, Géliel, Roman Reigns n'est pas là. Poleman est là, lui, et il nous dit que le champion est absent. Alors, il va falloir trouver un troisième membre. Sinon, Nick Aldis nous dit que ce sera un match à handicap, un 2 contre 3. Jimmy Uso est en panique dans les backstage. Solo Sikoa dit, écoute, c'est le gros bordel. Jimmy Uso, il le sent pas. Parce que pourquoi, mon bon Géliel? Parce que personne ne va vouloir être en équipe avec eux. C'est quand même... ils sont pas trop... Ils ont
quand même pas mal nettoyé autour. Donc,
oui, c'est oui, ça, voilà. C'est ça. En plus, Roman Reigns, Géliel, est injoignable au téléphone. Par contre, Poleman, c'est un beau parleur. Et il compte bien compter sur sa capacité à séduire pour trouver un troisième membre. Jimmy Uso est quand même inquiet. Et Solo Sikoa dit... Non. Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Moi, je veux juste la bagarre. Ça va donc être notre fil bleu, Géliel, pour cet épisode qui va rejoindre la Bloodline pour le main event de SmackDown. Qu'as-tu pensé de cet opener?
Écoute, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Très fan des multis. Donc là, on a un 3 contre 3, très, très bien. Et puis en plus qui intègre la Bloodline, en plus c'est hyper varié, on aura l'occasion d'en reparler, c'est quand même un des moments forts outre le fil bleu, effectivement c'est un des matchs qui est intéressant derrière. moi j'ai bien aimé la présentation par Poleman, Nick Aldis qui se remet quand même un peu l'église au milieu du village en disant ouais. Un petit peu que c'est quand même lui le patron sur cette partie-là. Et que c'est pas parce que Poleman pleure toutes les larmes de son corps sur le fait que c'est pas des méchants, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Et c'est lui qui décide effectivement de booker ça pour le main event de ce soir. Et puis, on est bien embêté parce qu'effectivement, si Roman Reigns n'est pas là, ils ne sont pas assez. Qui va faire le trou? Qui va faire le troisième? On va voir ça sur tout cet épisode. Donc, moi, j'ai bien aimé cette introduction.
Ouais, moi aussi, sympa. J'aime bien, moi, ces petits angles-là de trouver un partenaire quand ils n'en abusent pas. Puis en plus, ça, c'est vrai que la Bloodline, ils n'ont plus beaucoup de copains. Donc c'était plutôt bien joué. Et puis ce personnage hein, de General Manager, Nick Aldis, là, qui baisse pas les yeux. Qui baisse pas les yeux. Au contraire, il est même relativement menaçant hein, envers quiconque ose un petit peu défier l'autorité. Et là, Poleman, qui lui était dans des petits chaussons avec. Le précédent général manager, donc Adam Pearce, hein, qui gérait les deux shows. Là, cette fois-ci, en face de lui, il y a du répondant. Et ça, c'est pas mal. Il y en a qui commencent même déjà un petit peu à imaginer des choses avec Nick Aldis. Mais bon, on y sera un peu plus tard. Avant ça, on a eu un match tag team avec la LWO, donc Joaquin Wilde et Cruz del Toro, qui affrontaient donc Angel Garza, Humberto Carrillo, qui s'appelle plus que Angel et Humberto, je crois, ou Garza et Carrillo, je ne sais plus. ils perdent des noms et ils retrouvent des prénoms tous les deux mois, ces deux-là.
Ouais.
Qui donc on rejoint Santos Escobar hein, dans la Legado del Fantasma V2, version 2.0. Un excellent match hein, entre les luchadors, la lucha libre, là, ça saute dans tous les sens. Je vous ai dit, j'ai déjà parlé à la LWO, Cruz del Toro, Joaquin Wilde, ils nous proposent des belles choses aussi à NXT. Je vous invite à aller voir ce qui se passe également du côté du show de développement de la WWE. Il y a Carlito qui va arriver. Pourquoi ? Parce que Santos Escobar, il est au commentaire et Carlito et Santos Escobar, ça va pas. Donc les deux vont se mettre sur la tronche à travers la foule. Et pendant ce temps-là, alors que le match part dans tous les sens, Angel Garza réussit à faire un petit paquet grâce aux cordes du ring. Voilà, c'est un filou, c'est un malin. Et donc c'est la victoire de Garza et Carrillo, de Angel et Humberto. À savoir que Carlito, justement, un petit peu plus tard, bah justement, il va être le premier homme que Paul Heyman va tenter de séduire avec une pomme. Il lui propose de faire équipe avec Jimmy et Solo. Et l'autre, il dit « Non, non, moi, je vais me battre. » Mais avec qui ? Avec Santos Escobar. On continue tranquillement. Voilà, cette petite rivalité de gang mexicain. Là, c'est la guerre des cartels.
Yes, la guerre des cartels sautillant, on va dire. Ouais.
C'est version un peu match... Disney+, mais la guerre des cartels quand même.
Oui, quand même. Très Disney quand même. Même si Zelina Vega était pas PG, mais bon,
bah, on va Disney plus passer plus,
autre chose. Ouais. Plus. Bon match avec des catcheurs qui maîtrisent leur sujet. Hein. C'est voltigeant, c'est sautillant, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, moi j'aime assez cet aspect-là. On savait pas trop où ça allait partir. Et finalement, l'intervention de Carlito. Sur la fin du match qui s'attaque à Santos Escobar ça distrait tout, ça coupe le match, mais ça amène aussi une nouvelle ça poursuit l'angle en amenant dans le match. On n'est pas sur du cousu de fil blanc, dans le sens on n'a pas un match, enfin voilà, j'ai trouvé que dans le même sens que là, ça allait bien avec l'opener qui partait dans un sens et puis qui s'est retrouvé d'aller dans une autre direction, et là pareil, deuxième match, on a un match un tag team qui finit pas comme il faut parce qu'il y a eu une intervention. Moi, ça me va. Entre le catch plus la partie extérieure, j'ai été bien diverti par cette partie-là. Effectivement, Paul Heyman derrière, on sent le fil bleu là qui il va chercher du monde pour essayer de son troisième. J'ai trouvé ça très sympa. Mais Carlito, on lui fait pas. Lui, il a Santos Escobar dans le viseur. Il en bougera pas. Voilà, et c'est pas une pomme ou deux qui lui changera grand-chose.
Non. Il y a qu'en France qu'un politicien peut remporter une campagne grâce aux pommes.
En mangeant des pommes.
Jacques, si tu nous entends, on te dédicace ce super catch-up. Il est pour toi. Alors, il s'est passé pas mal de petites choses à droite à gauche. Je vais parler rapidement. On a eu Butch et Tyler Bate, là, qui étaient dans un espèce de café, pub, à boire du chocolat chaud. Et qui, Tyler Bate qui a rejoint son pote Butch, qui est content. Butch, il était un peu plus circonspect par tout ça. Mais bon, il va lui rappeler son bon souvenir. Il y a des séances de yoga et de paix intérieure qui s'annoncent pour nos deux Britanniques. On continue direction la division féminine avec Bianca Belair qui affronte Bayley. Et oui, j'ai l'impression qu'on nous propose ce match toutes les trois semaines avec évidemment Damage Control qui est là tout autour. Bianca Belair qui va gagner le match face à Bayley en plaçant son KOD dans un match très classique où le plus intéressant, si je puis dire, se passait plutôt autour du ring, Géliel, puisqu'on a pas mal insisté sur une faction de Damage Control qui n'était pas très encourageante, voilà, pas très unie exactement face au sort de leur leader, hein, Bayley. On a eu vraiment là, les Japonaises qui étaient un petit peu circonspects, qui étaient un petit peu déçus, voilà, voire qui s'en foutaient presque du sort de Bayley. Qui étaient navrés de voir la prestation de Bayley, qui n'ont même pas tenté, je crois, hein, à aucun moment, elles ont vraiment tenté d'aider Bayley.
Oui. Il n'y a pas eu d'interférence
donc,
du tout.
Ouais. Donc, assez étonnant. D'ailleurs, juste après le match remporté donc, par Bianca Belair, on a eu Bayley qui est allé voir Dakota Kai. Puis il dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce bordel? Et là, Dakota Kai a dit, ouais, mais tu sais, l'arbitre nous regardait, on n'a rien pu faire, l'opportunité ne s'est pas présentée. Bon, du coup, Bayley, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Va falloir qu'elle gagne le Royal Rumble toute seule. Hein. Visiblement, elle ne peut pas compter sur ses copines. Écoute, moi, je suis un petit peu embêté parce qu'il y a 3 semaines, on nous faisait un petit reboot de Damage Control en mode après tout ce qui s'est passé, les départs de Charlotte, il y a eu pas mal de blessures. Donc, le programme Damage Control versus le reste du roster, c'était un petit peu mis à l'arrêt. On avait un petit peu rebooté. L'équipe avait l'air à nouveau soudée sans vraiment d'explication, mais on était reparti sur quelque chose de plus simple, de moins capillotracté, et là on repart encore dans le sens inverse où Damage Control versus Bayley, il y a de l'eau dans le gaz, quoi.
Ouais, et puis pour moi, tout ça, ça s'inscrit sur un match que j'ai pas forcément ultra. Tu l'as dit, hein, de toute façon. J'ai l'impression qu'on le voit très régulièrement. Je trouve que Bayley actuellement, outre le fait qu'elle m'apparaît pas très physiquement. On a vu que des choses qu'on avait déjà vues 2-3 fois, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment du mal à m'emballer sur l'affiche. Surtout que ça raconte pas grand-chose. Ça tracte beaucoup, ça discute beaucoup, ça s'engueule beaucoup dans l'arrière-cour du Damage Control. Et puis, on voit pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, puisque, comme tu l'as dit, c'était déjà arrivé avant que comment s'appelle, flûte. Pas d'accord.
Asuka. Kairisen.
Non, pas Asuka. Non.
Qui cherche, tu donnes moi un indice.
La troisième.
Yo-Sky.
Yo-Sky, putain, voilà. Que Yo-Sky a la ceinture, il y avait déjà eu.
La troisième est là.
C'est ça. Yo-Sky a la ceinture, il y avait déjà eu des grosses tensions, ça s'était réapaisé, là ça recommence. Et puis surtout, ça avance pas. En fait, on est exactement au même niveau. Il n'y a pas de choses qui sont crantées pour qui permettraient d'avancer dans l'histoire, de nous raconter un truc. Donc voilà, la séquence m'a pas particulièrement plu. Quand en plus le in-ring, je l'ai pas trouvé folichon. C'était pas feignant, mais c'était vraiment le service minimum avec Bianca Belair et Bayley sur le ring. Pas ultra fan.
Non. Moi, vraiment, ce qui m'a embêté, c'est tout ce qui se passait à côté du ring. Là, les japonaises, va peut-être falloir apprendre à incarner. Alors, je veux pas faire mon Giscard, mais là, franchement, pendant 15 minutes, elles étaient poker face en mode oh là là, oh Bayley, oh là là. Enfin, je sais pas, essayer de réagir, faut un petit peu surjouer, quoi, dans le monde du catch, parce que sinon, tu racontes rien du tout. Elles étaient plantées là comme des poteaux. Il y avait vaguement Asuka qui essayait de raconter quelque chose. Mais c'est vrai que, pour moi, on raconte l'inverse de ce qu'on devrait nous raconter. J'aurais préféré, pour arriver au même résultat, que justement les filles essayent d'intervenir, mais n'y arrivent pas. Et que Bayley le leur reproche en disant qu'est-ce que vous avez foutu. On dit on a essayé, on n'a pas réussi. Et puis voilà.
Et là, ça pouvait commencer à alimenter une espèce de feu, d'une espèce de split ou quoi que ce soit même, mais quoi que ce soit, parce que là il se passait rien.
Elles essayent de se rabibocher visiblement, sur la route pour WrestleMania, elles avaient des plans, toi tu vas être championne, toi aussi, vous allez être les championnes par équipe, et puis 2 semaines plus tard, notre grand projet tombe à l'eau, donc c'était un petit peu, c'est navrant tout ça. Bobby Lashley et Street Profits, eux, ils vont avoir un gros programme sur la route de WrestleMania. Et ce gros programme, c'est Karrion Kross et le retour des Authors of Pain, qui donc les ont attaqués la semaine dernière comme des gros lâches par derrière. C'est pas cool. Les lumières s'éteignent. Paul Ellering est là. Il pointe l'écran géant et il y a Karrion Kross et Scarlett qui nous informent que Bobby Lashley et Street Profits vont être les premiers à se faire démolir. Akam, Razar, Paul Ellering, c'est donc les Out of Pain et surtout le nom de cette nouvelle faction. Géliel nous est donné le testament final, The Final Testament. Alors on est encore dans du biblique, du mystique qui s'annonce avec un gros packaging quand même là, qui a été fait pour bel emballage là pour cette faction. qui bah, prend. Il y avait une place à prendre hein, sur le créneau mystique prophétie de la fin du monde, visiblement. Mmh. On a d'un côté le Judgment Day et de l'autre le Final Testament. Je ne sais pas ce que tu as prévu de cette année, mon bon Géliel, mais visiblement, la fin du monde arrive.
Oui, bah, je vais raccourcir certains projets que j'avais effectivement un peu lancés. Voilà. Pour tenir compte. Par contre, grosse déception quand j'ai vu apparaître le Carrion Cross sur le Titantron, pas Titantron, ouais. Sur l'écran. Moi, naïvement, je pensais qu'il venait annoncer sa retraite. Finalement, ah, c'était pas ça.
je comprends ta déception, bon. En effet.
Ouais, non, je j'ai beaucoup de mal à adhérer au bonhomme, à ses différents personnages. Je ne l'ai pas vu faire des matchs incroyables, je ne l'ai pas vu faire des promos incroyables, je ne suis vraiment pas convaincu. Là, l'association avec AOP, Authors of Pain, d'accord. Et puis, bah, Final Prayer, comme ils disent, hein, ok, pourquoi pas. Mais c'est aussi un échec, hein, c'est parce que tout seul, ça ne marche pas, quoi.
En fait, ah bah hein, oui.
Ça ne marche pas. Karen Cross, il a été, je pense qu'à part un truc... où il aurait pu être très très face en rose, il a tout essayé, ça marche pas quoi. Donc on essaye une dernière fois en mode clan. On va voir ce que ça donne. Je suis pas fan parce que c'est des mimiques qui sont vues 125 fois où il serre les dents en se courant les cheveux là, en disant oh, je suis très mécontent, pas content du tout.
La fin du monde, la fin du monde.
Oui, oh, yo. Donc non, on va voir, hein. On va voir. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais bon, je. Je sais pas. Derrière, contre Street Profits avec Bobby Lashley. Ok. De toute manière, il fallait trouver une team aussi à opposer à cette faction. Ouais. Pourquoi pas? J'espère bien que Street Profits vont quand même pulvériser ces espèces de. Enfin, voilà, ce truc que je n'apprécie pas particulièrement, The Final Prayer, The Final Testament. Voilà. Donc, je suis pas. On va voir. J'espère que ce sera finalement un push pour les Street Profits avec Bobby Lashley, plus qu'autre chose. Et puis que bah, d'ici quelques mois, Karrion Kross nous annoncera effectivement la fin de sa carrière. On fera une cagnotte et puis ce sera très bien tout ça. Voilà.
Une cagnotte. Écoute, moi, j'avoue, c'est mon petit point faible. Je suis assez fan de ce genre de gimmick. Là, le jugement dernier, le Final Testament, les trucs mystiques avec des flashs d'images un petit peu chelous dans tous les sens. Allez, je vais tenter, je vais me laisser, je vais écouter ce qu'ils ont à dire. Amusant quand même, je trouve, c'est que justement tu parlais l'échec de Karrion Kross en solo et que pour fixer ça, pour corriger ça, on met en faction. C'est amusant de les mettre en face de Bobby Lashley et Street Profits, qui pour la peine fonctionnaient à plein tube, sans faction, mais qu'on a mis en faction quand même et dont on peut encore se poser la question de l'intérêt. De les avoir mis en faction. Donc c'était assez amusant de voir deux origines totalement opposées, deux raisons totalement opposées de mettre comme ça ensemble des catcheurs, des superstars. Il y en a un, c'est pour raconter, je ne sais pas trop encore, Bobby Lashley, Street Profits, je ne sais pas pourquoi on les a mis ensemble. Peut-être parce que ça permet d'économiser du temps d'antenne. Tu n'es pas obligé de mettre les deux séparément. Et puis en face, par contre, voilà, c'est pour offrir une dernière chance. Tenter un dernier coup sur le projet Karrion Kross. Kevin Owens, le Canadien, on ne va pas beaucoup le voir ce soir. On va voir Logan Paul, par contre, qui visiblement a prévu d'envoyer toute une armée d'avocats sur le dos du pauvre Kevin Owens, qui l'a attaqué, donc qui l'a frappé au visage avec son... comment t'appelles ça son... Pas ça m'énerve, mais... Au poignet, là.
Ah putain, excuse-moi, j'avais le micro coupé. Son plâtre. Il avait un plâtre, ce bon.
Ouais, voilà, son plâtre. Merci. Il ne faut pas que tu coupes ton micro. Hein. Il n'y a pas de censure ici. Il n'y a pas de censure. Et puis, comme ça, tu peux m'aider en direct. Tu ne me laisses pas dans les sables mouvants. Géliel, comment on dit plâtre déjà, s'il te plaît. Bah, plâtre. Ah oui, voilà, merci. Bref, invitation, ce sera la semaine prochaine au quai au show. Donc, rien à voir pour ce soir. Paul Heyman, qui tente toujours de recruter, va tomber sur les Pretty Deadly qui se proposent. Ils se proposent les Pretty Deadly, on les adore, on les aime. Sauf que bah, ils sont deux, il a besoin que d'une personne. Et puis finalement, les Pretty Deadly décident de ne pas y aller parce qu'en face, quand même, c'est de la grosse castagne, c'est du gros bonhomme. Ils se rendent compte qu'ils se sont peut-être emballés un petit peu et donc ils repartent. Ils auront quand même tenté leur coup. C'était plutôt marrant qu'ils arrivent, ils le touchent comme ça. Oh, Paul, ils arrivent comme ça. Limite, bon, il a plus de cheveux, mais il lui caresse les cheveux. Il lui faut des petits bisous dans le cou pour essayer de le séduire. Moi, ça m'a fait sourire. On aime.
Oui, c'était marrant.
On aime les petits délits. Là, par contre, ce qu'on n'a pas aimé, c'est le match Carmelo Hayes versus Austin Theory. Carmelo Hayes qui s'est vu proposer ce match, en tout cas qui était dans le bureau un peu plus tôt, hein, de Nick Aldis, et puis Theory qui sont venus avec Grayson Waller, ils se sont embrouillés, ça s'est chauffé et Austin a donc demandé à provoquer le match, la tenue du match qui a été officialisée par Nick Aldis. Le problème, c'est qu'on a encore une fois de plus frôlé le drame. Mon bon Géliel, avec tout vu, simplement, hein. Ouais, Suri qui a tenté une Spanish Fly en springboard depuis le turnbuckle là sur Carmelo Hayes, mais les deux hommes sont tombés sur la tête, hein, tout simplement, hein, en fait, Austin Suri, enfin, ils se sont cognés la tête, je crois, pendant la prise, et du coup, en se cognant la tête, ils sont mal retombés derrière, et l'arbitre, il a vu ça, il a fait pop-pop. Il y a eu des flashs de la semaine dernière. Il s'est dit, c'est pas possible. Je crois pas que ce soit encore le même. Non, c'est pas le même arbitre. Parce que je veux dire, le mec, c'est un vrai poissard. mais voilà, on a arrêté le match. On a arrêté le match tout simplement. Et ça s'est terminé une fois de plus. Voilà, comme Giovanni versus Kofi en no contest. Alors, je vous rassure tout de suite, ça se passe bien pour Carmelo Hayes. Puisqu'on peut le retrouver à NXT quelques jours plus tard. Donc, plus de peur que de mal, visiblement, pour les deux hommes. Enfin, même si je ne sais pas. Hein, pour Theory, j'ai pas eu de nouvelles.
Pour Theory, je ne sais pas. Parce que moi, sur le move, on voit qu'il y a on voit ce qu'ils veulent faire. Effectivement, tu l'as dit, il y a un contact à la tête qui fait que ça dévie un peu les trajectoires initiales. Et moi, j'ai trouvé que c'était surtout Theory qui était retombé de manière assez sale. Ace, effectivement, on l'a vu recatcher, enfin, on l'a revu depuis, donc ça va. Théorie, par contre, on l'a pas vu et j'ai pas vu s'il avait été déclaré infirmerie ou autre pour la suite des programmes, quoi. Ça fait jamais plaisir à voir, effectivement, de voir un match arrêté comme ça, assez tôt en plus dans le match. Ouais. Avec l'arbitre, quoi. Ah bon, voilà.
Ouais, les deux hommes commençaient un peu à monter le momentum, justement, excusez-moi l'expression, sur le match. Et puis, ouais, c'est dommage pour Carmelo Hayes, mais bon, ils vont se refaire la bille. Et puis voilà, il faut la sécurité avant tout. Même si j'aimerais qu'on n'ait pas à dire ça toutes les semaines. Ça nous fait, ils nous font des frayeurs. Ils nous font des frayeurs, mais voilà, une preuve de plus que quand même tous ces superstars prennent des risques pour notre plaisir. Nous, on est là à mettre des notes. Des fois, on met des 5, des fois, on met des 0.
Ouais, c'est ça. Tranquillement assis dans le fauteuil.
Ouais, c'est ça, voilà, dire oh là là, oh le cours.
Oh, c'est nul.
On continue tranquillement, et puis on va arriver au main event. On arrive à la fin du show, mon bon Géliel, puisque Randy Orton, LA Knight et AJ Styles donc vont affronter Jimmy Uso, Solo Sikoa et on sait pas trop qui va y avoir. Parce que Paul Heyman dit, il a parlé à tout le monde, mais personne n'est assez digne pour les rejoindre. J'ai confiance en vous, je suis pas inquiet. L'autre dit, mais moi je suis inquiet. Et Solo dit, je suis pas inquiet. Et donc, on va se retrouver avec un 3v2, tout simplement, un handicap match, Randy Orton, LA Knight et AJ Styles contre Jimmy et Solo. C'est tout simplement mal barré pour la Bloodline, mais la Bloodline a plus d'un tour dans son sac. Ils ont tout simplement décidé d'attaquer Randy Orton au moment de son entrée, donc avant même que le match commence, et Randy Orton est mis sur la touche. Et donc, on commence en 2v2, Géliel, et voilà, tout de suite. C'est plus simple. Le match qui prend là ce soir pour notre main event. Heureusement, Randy Orton, à la fin du match, revient au moment le plus dramatique de cet affrontement. Il fait le tag, il entre. La foule est en délire. Déjà que la foule était chaude, hein, parce qu'on a quand même...
Ouais, la musique...
Des super... les babyface, la musique de Randy Orton qui revient par-dessus. Là, c'était la grosse folie. Le power slam, le DDT depuis la deuxième corde, le Jimmy Idigust, le RKO, c'est contré, le petit roll-up, Jimmy Uso qui tente le super kick sur Randy Orton. Et derrière, c'est le RKO qui passe cette fois-ci, la victoire des babyface. Et juste après le match, Solo attaque Randy Orton et AJ Styles place un phénoménal forearm, LA Knight place le BFT, Randy Orton place le RKO, le pauvre Solo, il déguste, Roddy Orton, AJ Styles et LA Knight n'en ont pas fini, génial, puisque nous avons droit tout simplement à une triple powerbomb à la Shield sur Solo Sikoa à travers la table des commentateurs. Et c'est comme ça que se termine ce show. Je crois que le message est envoyé en direction du chef tribal.
Ouais, sacré main event, hein, clairement. Alors, il était un petit peu... Ils ont fait la facilité, mais en même temps, ça s'écrit, hein, dans le sens où, effectivement, et on l'a dit, la Bloodline, ils ont tellement rasé ce qui se faisait autour d'eux que c'est compliqué de trouver même un heel qui viendrait avec eux pour faire le bouche-trou. Donc, d'un 3 contre 2, on est finalement rapidement passé à un 2 contre 2, comme tu l'as dit. Super match, hein, franchement, j'ai trouvé le match vraiment très, très sympa. C'était quand même du très très maîtrisé, du technique, ça sautillait quand même. Enfin, franchement, moi j'ai vraiment vraiment apprécié. Et puis après, la musique de Randy qui revient finalement, bien que tabassé, il arrive à revenir. Et puis là, on passe effectivement dans une autre dimension parce que du coup, on est à 3 contre 2. C'est beaucoup plus simple. Et puis, c'est Spotfest sur Spotfest avec les finishers de chacun. Et puis, un Solo Sikoa qui se prend une énorme powerbomb par les trois. Là, c'était assez incroyable. Ça s'arrête assez vite là-dessus. Je sais pas trop ce qui va en ressortir. Alors on a le Fatal 4-Way qui est annoncé, mais en tout cas il reste du temps. Il reste combien? Deux shows avant le Royal Rumble, je crois. Hein. Quelque chose comme ça.
Possiblement.
Ouais, je crois. Donc il y a encore moyen d'écrire quelque chose. Ouais, avec même le tour de Roman Reigns avant le Royal Rumble pour remettre peut-être un peu d'ordre dans la maison, etc., etc. Bref. Là, on est quand même sur du très, très gros, du très, très lourd. Donc, moi, j'apprécie. J'ai vraiment kiffé ce main event.
Ouais, t'as raison. Il reste deux épisodes de SmackDown puisque le Rumble aura lieu donc le 28 janvier. Gros main event. Court, hein, match court, hein, mais intense, oui. Super bien raconté. Et puis, moi, allez, je fais un petit clin d'œil quand même à Jimmy qui m'a fait mourir de rire quand même dans ses interventions là backstage. C'est vraiment très drôle là, quoi. Il disait, non, t'inquiète, Polo, je suis pas inquiet. Puis quand il s'en va, il gueule comme ça, il dit, mais je suis inquiet. Et toi, t'es inquiet. Non, je suis pas inquiet, qui lui dit son frangin. Il dit, si Solo est pas inquiet, je suis pas inquiet. Tout en étant hyper inquiet. Ah, c'est Jimmy, attention. Jimmy, pour moi, c'est le petit bijou caché. On parle beaucoup de Jay, mais Jimmy, merci. Derrière, là, c'est quand même. C'est quand même de l'or aussi. Il tient très bien son rang. Un super main event pour clore ce show bleu. C'est l'heure du mot de la fin. Géliel, est-ce que tu aurais un top, un flop et une note à nous partager?
Bien sûr, je vais te prendre le main event sous le pied. Couper sous le pied pour mon top. Là. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié. En plus, il y a vraiment du lourd. Hein. On a quand même du Orton. On a quand même du AJ Styles. On a quand même du LA Knight. Plus deux membres de la Bloodline. C'était très 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 lourd. La construction, quoi. Hein, le main event, d'accord, mais il a été construit sur toute la longueur de ce SmackDown avec ce fil bleu qu'on a eu depuis plus depuis l'opener. Hein, donc, on a eu l'occasion de le voir plusieurs fois, donc d'être teasé plusieurs fois sur la durée du show. Et ça, c'est toujours très bien qu'ils fassent des petits rappels. Il y a eu des vignettes qui étaient assez courtes et c'était très bien aussi. Donc, main event en top. Le flop, je ne sais pas si je le mets à Bayley ou à Damage Control ou à l'histoire autour ou à tout ça, mais ça ne va pas tourner loin de cette affaire-là, sachant que Bianca Belair, elle n'a pas grand-chose à... Enfin, le match, je l'ai trouvé assez médiocre, mais elle n'y est pas pour grand-chose. Je vais le mettre au booker de la WWE qui n'arrive pas à trouver quelque chose à construire autour de Damage Control, qui, d'une semaine sur l'autre, de 15 jours en 15 jours, sont capables de dire d'aller dans un sens... puis de s'arrêter, de repartir dans l'autre pour 15 jours, etc. etc. Donc, ça va être mon flop parce qu'il y a quand même du monde, il y a quand même une ceinture aussi. Donc, il y avait quand même des ambitions qui avaient été affichées et tout ça ne donne pour le moment absolument rien. Donc, ça va être mon flop. Et pour ma note, ils savent y faire, hein, pour avoir des bonnes notes, hein, avec un bon opener, un fil rouge, quelques matchs très sympas au milieu. Bon. Truc ce qui n'est pas fait exprès, et un comme la blessure par exemple, un main event de qualité. Pour moi, on est sur du 3-5 parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce SmackDown du début jusqu'à la toute fin. Voilà,
écoute, j'avais prévu la même note que toi, 3,5. Voilà, c'était super bien construit. Il y a eu des petits accidents de route. Certains, bon voilà, on peut pas y faire grand chose. D'autres choses qui étaient un peu plus décevantes, ben, on va parler hein, de ce Bayley versus Bianca Belair qui a pris, en plus a pris pas mal de temps. Moi, je lui mets mon flop, et notamment aux japonaises là, qui étaient ringside. Pendant 15 minutes, la caméra passait, voilà, les a filmées et elle ne faisait rien du tout. Elle restait comme des poteaux. Et enfin, moi, ça m'a complètement sorti du match en fait. Et voilà, je te rejoins, les bookers. Voilà, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui fonctionne. Il va falloir redresser la barre. Et puis en top, bah, je me fais un petit plaisir. J'en ai parlé, Jimmy. Jimmy m'a fait beaucoup marrer pendant ce fil bleu. Donc c'est pour toi, Jimmy. Allez, tu l'as mérité. Direction le show rouge. Nous sommes donc le lundi, nous sommes le 15 janvier 2024, et là, il y a du lourd, il y a du costaud. On va avoir un énorme main event avec une défense de titre, et nous sommes à Little Rock, dans l'Arkansas, et c'est donc le Martin Luther King Jr. Day, today. Donc voilà, on a un beau package vidéo. On voit arriver Seth Rollins avec sa fille, voilà, voilà, qui arrive. Je me dis, qu'est-ce qui est fiché ici? C'était un peu étrange. J'avais pas de babysitter ce soir pour la garder. Et on voit aussi arriver le Maharaja, mode des temps modernes, Jinder Mahal. Les deux hommes vont s'affronter en main event ce soir pour le titre suprême du show rouge. Cody Rhodes, c'est lui qui ouvre officiellement le show, voilà, il fait quelques petites dédicaces à cette ville qu'il connaît bien. Il nous explique pourquoi il est de retour ici à la WWE.
Chip-hop.
Ouais, de la chip-hop, oui, évidemment. Bah, ceux qui, voilà, ceux qui ont compris, ont compris. Moi, bon, j'ai pas compris toutes les refs, hein, mais bon, visiblement, Cody Rhodes et Little Rock, voilà, c'est, ils se connaissent. On nous parle du Royal Rumble, évidemment, Cody Rhodes y connaît, c'est comme ça qu'il a punch son ticket pour WrestleMania, et Vlatipa que Drew McIntyre arrive. Là, on est parti, hein, mon bon Gilles, pour des semaines de face-off entre les méga-stars du show rouge à l'entrée du Royal Rumble, et ben, cette semaine, on a droit à Drew McIntyre contre Cody Rhodes, voilà, en battle de promo. Il dit, bah écoute, souviens-toi du bon vieux temps. C'est une spéciale de Drew McIntyre. Hein. Il arrive toujours, ouais. Il brosse dans le sens du poil. Souviens-toi, toi et moi, on est pareil.
Il fait ça aussi.
Ouais. Il connaît bien, c'est sa spécialité. Il te rappelle le bon vieux temps. Puis derrière, paf, il fait une grosse crasse, l'Écossais. Et c'est vrai qu'ils ont été champions tag team, les deux hommes, hein, les Dashing Ones, comme se rappelle Cody Rhodes, le bon vieux temps, et puis le temps de la scène indé aussi, hein, quand les deux sont partis, génial, ils ont quitté la WWE un petit peu, à peu près, à la même période, hein. Et donc tous les deux se sont refait, voilà, tout un nom, tout un charisme, hein, voilà, qui a été, quand ils sont revenus, c'était la folie. Le dernier match, d'ailleurs, sur la scène indé, c'était face à Cody Rhodes, Drew McIntyre, donc et les deux hommes se sont dit, d'ailleurs, tiens, tu seras un jour champion du monde, lui a dit Cody. Ce qui s'est passé. Hein, Drew McIntyre, deux fois, il était champion du monde, donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Cody Rhodes, lui, il lui reste enfin à faire ça, à ramener ce titre sur le nom, au nom de Rhodes, hein, la famille Rhodes, qui n'a jamais connu le titre suprême. Les deux hommes continuent comme ça, hein, à se faire des petits clins d'œil, des petits bisous dans le cou. Et puis voilà, Tipa, que Drew McIntyre commence un petit peu à balancer des feuds, et puis commence à nous parler, à ramener des petits taquets, et puis derrière il nous parle de WrestleMania, le Rumble. Cody Rhodes va au Rumble, Drew McIntyre va au Rumble, donc bah, il va avoir un petit problème, hein, c'est que McIntyre il va devoir balancer Cody Rhodes par-dessus la troisième corde pour aller donc à WrestleMania. Et puis bah, c'est un petit peu comme ça que se termine cet échange, hein, cette passe d'armes, c'est on se menace mutuellement de balancer l'autre par-dessus la troisième corde.
Oui, et puis alors je reviens pas sur tout ce que tu as dit, effectivement, Drew McIntyre qui invoque le passé, vrai en plus, enfin je veux dire, il y a absolument rien à dire par rapport à ce qui s'est passé, ce qui aurait arrivé. J'ai quand même bien aimé, et même si on sent qu'on va y aller vers quelque chose de ce style là j'ai beaucoup aimé la partie la fin en fait, où Cody lui dit effectivement on a eu un match ensemble, etc, mais où il lui rappelle, il fait mais souviens-toi comment ça s'est terminé, quoi, et puis il nous fait un beau drop mic là-dessus, et il s'en va. Ouais, ça ouvre pas mal de choses sur pour la suite. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, pour être clair. Donc on va voir ce que ça donne, quoi.
Ouais, exactement, exactement. Bon, voilà, il lui a reproché d'avoir fait venir à Jey Uso, il nous a reparlé de CM Punk. Bref, Drew McIntyre, il en a gros sur la patate. Et lui, il veut finir son histoire donc à WrestleMania 40, tout simplement. Cody lui a dit que ce que dit tout le monde. Hein, on lui dit, bah écoute, arrête de pleurer là sur ton sort. Et puis, sois un homme, mon fils.
Ça.
Derrière, on a le Judgment Day qui va nous offrir encore des petites régalades là, tout au long de cet
Ah
épisode.
ouais. Très bon,
Avec
très très bon.
R-Truth et puis Damien Priest qui dit écoute, c'est quoi ce bordel? Faut que t'arrêtes tes conneries quand même, c'est plus très drôle. Et l'autre R-Truth dit attends, je suis en train de vendre des t-shirts, regarde sur le parking. Enfin, l'autre il lui dit voilà, tu vends des t-shirts. Il l'a chopé en train de vendre des t-shirts sur le parking, quoi. Il dit, bah attends, t'inquiète pas. Et puis là, R-Truth, il sort une énorme masse de billets en lui disant, écoute, voilà ta part. Il l'a donné à la même prise. Puis Damien, il regarde le cash, voit que ça fait quand même pas mal d'argent, ça, dis donc. Il dit, ouais, t'inquiète, R-Truth, t'inquiète, chacun va avoir sa part. Bon, sauf JD, évidemment, il n'y aura pas de part. Hein, parce qu'il n'est pas dans le jugement, il n'y a pas de raison. Donc, il va continuer à vendre ses t-shirts. L'autre, il dit, ouais, écoute, c'est bon, tu peux continuer à vendre tes t-shirts, vas-y, c'est cool. Par contre, ce soir, il y a un match, voilà, faudra pas que tu prennes le tag. Il y a un match avec R-Truth. Et puis le Miz contre Priest et Finn Balor. Et R-Truth regarde, il le regarde, puis il fait, ouais, faut pas que je tag in, d'accord. Donc on n'est pas très bien sûr de qu'il ait bien compris le message de Jabal Priest. Il se demande sûrement si c'est pas encore un test. Donc ça c'était plutôt marrant. On va les retrouver un petit peu plus tard, mais ouais voilà, c'était le petit.
Et je trouve Damien Priest très très bon dans cet exercice,
ouais,
et je
moi
suis
aussi,
assez
j'adore.
content parce que comment dire, au tout début, j'ai, enfin, le ressenti que j'avais, c'était vraiment que, enfin, Damien Priest, quand il est arrivé, il n'était pas du tout, il était vraiment un côté un peu face, un peu, voilà, il n'avait pas le positionnement qu'il avait aujourd'hui, quoi. Et je trouve que ça marchait bien. Alors après, il est parti côté Judgment Day, ok, pas de problème. Sauf que je trouve que là, en reprenant quelques éléments un peu comiques, etc., etc., et ben je trouve que ça marche vachement bien, quoi. Ça marche vachement bien.
Ouais.
Donc voilà, je sais pas si pour la suite comment ça va se passer. En tout cas, moi je trouve que ça marche bien et j'ai vraiment apprécié le côté comique de Damien Priest qui s'en est donné à cœur joie sur le truc.
Est-ce que c'est dans cette séquence que R-Truth parle de Tom et Nick Mysterio?
Ah, je sais
dit,
pas.
Il parle de. En fait, R-Truth pense qu'il y a deux, qui sont deux, que
ouais,
il y a Dominique,
deux,
ouais. Dom et son frère Nick. Ça fait Tom et Nick. Il comprend Tom et Nick Mysterio. Et donc, et ils ont fait un t-shirt, je crois, une photo, un montage comme ça où t'as les deux. T'as Tom et Nick Mysterio. Et je cherche.
Il est très très bon, R-Truth. Hein.
Ah,
très
ouais,
très
ouais,
bon.
Ouais. On se marre. Bon, alors, le Judgment Day. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Judgment Day? On va faire une capsule Judgment Day. On a eu donc un match entre Dominic et JD contre DIY qui était remporté par les DIY. Voilà, donc malheureusement pour Dominic et JD, c'est la défaite ce soir. Un petit peu plus tard, que je dise pas de bêtises, on a eu donc le match du Judgment Day avec Finn Balor. Qui est sur le ring avec Damien Priest, R-Truth. Ah oui, c'était avant le match. Juste avant le match, on a eu le partage des gains, hein, des gains de la vente de t-shirts. De la vente de t-shirts.
Oui,
on a
c'est
eu ça.
Ça.
Ouais. Donc R-Truth
arrive.
C'était
encore grandiose avec les sous qui sortent de la poche là.
Et donc il commence à distribuer les bifetons, il en fout partout alors qu'il y a un match juste derrière, il veut pas en donner. McDonald qui déteste R-Truth, il veut quand même sa part, c'est le chien quoi, genre vas-y mais donne-moi mon argent. Il dit mais non t'es pas dans le groupe, il y a pas de tendon sur le t-shirt et tout. C'est excellent, c'est excellent. Et puis derrière, il en fout partout des billets. Donc c'est le gros, gros, gros bordel. L'arbitre qui va finir par réussir à lancer le match. Donc entre Awesome Truth, hein, le Miz R-Truth, contre le Judgment Day. Donc voilà, évidemment, c'est de la régalade tout au long du match. Archouf qui voilà qui a toujours la forme, hein. Il place son coup de pied ciseau là sur Finn Balor.
Ah ouais,
c'est voilà. Donc ça
va tenir celui-là.
Ouais. Priest qui va dégager le Miz du ring. Archouf qui s'apprête à taper Priest, hein, qui lui avait demandé de pas tag-in. Mais Archouf au début il avait commencé le match et puis après finalement il a tag-in et Priest lui dit mais qu'est-ce que tu fais? On est une équipe, hein, parce que Archouf le menace. Et Balor, à ce moment-là, veut placer un roll-up sur R-Truth. Mais R-Truth, hop, il fait « qu'est-ce que c'est que ça ?» Gros coup de pied. Donc, McDonough arrive pour faire la distraction. Et Priest, il finit par placer son énorme chokeslam sur R-Truth. Et Balor arrive pour le compte de 3. Et donc, la victoire du Judgment Day. Aïe, 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 ça fait mal au cœur. Mais tu sais quoi, je pense qu'Archouf, il ne va même pas leur en vouloir. Il ne va même pas lui en vouloir à Damien Priest. C'était un test.
Ouais, c'est ça.
Il nous régale.
Ouais, franchement, ça régale. Et puis, Arthrous au milieu, là, entre... j'ai bien aimé aussi, tu l'as dit, hein, d'ailleurs, mais pour la distribution, là, quand il y a JD qui fait, voilà... Et puis, un truc, je fais, bah non, mais en fait, tu fais pas partie de la famille, tu fais pas partie du groupe, alors que c'est tout l'inverse, ça remet encore le truc, il a rien compris.
On a eu une séquence backstage un petit peu plus tôt où justement toute la team était réunie dans le club, hein, du Judgment Day.
Avec Rhea.
Ouais, Kriya, et puis McDonough qui dit Archouf, ouais, mais tu ramènes rien, t'apportes rien au groupe, et là, t'as Damien Priest, c'est ça qui était cool, c'est Damien Priest qui sort le cash. Ils sont tous là, waouh!
Vraiment excellent. Et le match était pas mal du tout, plutôt rigolo. T'as pas parlé du Miz aussi, qui était aussi dans une approche très assez drôle au début du combat. Il savait pas, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a match, il y a pas match. T'es pas avec eux, etc. Donc c'était aussi assez drôle à voir. Non, franchement, alors. Faudrait pas que ça tourne trop dans le comedy wrestling pour le Judgment Day, qui a, je pense, d'autres projets quand même, globalement.
Bien sûr.
Mais en tout cas, ça marche pour le moment. Très clairement, ça marche.
Bah, de toute façon, il y a un gros programme qui attend Damien Priest, hein, parce qu'il a rebalancé encore le nom de Drew McIntyre, hein, justement pendant cette séquence au club là, avec le fric. Et il a dit voilà, il allait devoir gérer ça. Là, il allait voir Adam Pearce, visiblement, parce que Drew McIntyre, lors de sa promo versus Cody Rhodes, a encore dit c'est à cause de Damien Priest si j'ai perdu mon match, ouin. Donc du coup, Damien Priest dit quoi que c'est ça. Donc voilà, on va sûrement avoir un petit programme entre les deux. Et c'est intéressant, c'est très intéressant. Hein. C'est deux heels, mais deux heels qu'on aime, quoi. Et c'est très, très, très bien ce qu'ils font. Hein. Tout le monde est. Tout ce roster-là est très lié. Il se passe plein de choses en parallèle. Des fois, on met un petit peu sur pause. Et puis trois semaines plus tard, on y revient. Donc c'est plutôt bien. Ficelé. On va parler de Rhea Ripley. Alors, Rhea Ripley, qu'est-ce qui s'était passé pour la pauvre Rhea Ripley? Elle avait eu... Enfin, la pauvre, pourquoi je dis la pauvre? Ils sont riches maintenant. Ils sont riches avec l'argent qu'a fait R-Truth. Rhea Ripley, c'était un peu plus tard. Je suis un petit peu dans le désordre, du coup, mais j'avais dit que je faisais le Judgment Day, donc je continue sur le Judgment Day. On a Rhea Ripley qui prend le mic. Elle en a marre de Nia Jax qui vient... Nia Jax qu'on va pas voir, d'ailleurs, ce soir, je crois. Oui,
non. Non. On l'a déjà bien vu la semaine dernière.
Qui avait fait un gros coup d'ailleurs. C'était un petit peu. On peut se poser des questions quand même sur la gestion du momentum. Mais bon, la vraie. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vraie affiche, elle est là, Géliel. La grosse affiche qu'on veut voir, elle est là. C'est Rhea Ripley qui arrive, qui parle de Nia Jax. Qu'est-ce que c'est que ça? Avertissement. Quiconque va remporter le Royal Rumble. C'est Rhea Ripley, la patronne. La musique de Becky Lynch qui arrive. L'Irlandaise. Dit voilà, on est ici maintenant, toi et moi, on a eu un parcours assez similaire, on est devenus les meilleurs, on est au top, voilà, les deux patronnes, hein, les deux daronnes du roster, Rhea Ripley et Becky Lynch, les deux meilleurs, tout simplement, du game, on a passé, voilà, on a trouvé notre place, on est tout en haut, et donc on va se retrouver à WrestleMania, si jamais je devais affronter quelqu'un à WrestleMania, dit Rhea Ripley, si quelqu'un doit gagner le Rumble, j'espère que ça sera toi. Rhea Ripley, donc, qui arrive quand même à... Enfin, Becky, qui nous avoue qu'elle pense qu'elle n'est peut-être pas assez forte pour battre Rhea Ripley, quand même, dans sa promo, elle nous dit, voilà, elle a beaucoup réfléchi. Elle a beau réfléchir. Alors, au début, je trouvais ça un petit peu bizarre, la façon d'emmener ça, je trouve ça toujours un petit peu étrange quand Becky Lynch... se dévalorise un petit peu, tu sais, parce que c'est quand même une patronne. Elle a fait une année, elle était au four et au moulin. Elle a gagné quand même beaucoup, beaucoup de choses, hein, de titres. Elle a été championne NXT au passage. Voilà, elle a eu des grosses rivalités. Elle a battu Trish Stratus. Je trouve pas qu'elle... Mais bon, elle s'est pris un gros coup de poing dans la tronche par Nia Jax. Visiblement, ça l'a ramené... ça l'a ramené à la case départ, et du coup elle veut gagner le Royal Rumble pour aller à WrestleMania pour défier Rhea Ripley. Alors je pense qu'on aurait pu tourner ça un petit peu autrement, peut-être vraiment en disant, bah voilà, justement en parlant de ce coup de poing de Nia Jax, et de dire, bah voilà, après ça, ce qui s'est passé, il faut que je reprouve que je gagne, et je veux pas juste parce qu'elle pourrait dire, ouais voilà, Rhea Ripley versus Becky Lynch, c'est le match que tout le monde attend, il suffit que j'aille voir Adam Pearce, c'est le match se fait, mais je veux pas faire ça, je veux remporter le Royal Rumble. Alors c'est un peu ce qu'elle dit, mais elle le dit pas vraiment. Donc, alors je chipote un petit peu, parce que c'est vrai. Pourquoi je chipote, Gélial? Parce que c'est l'affiche qu'on veut voir à WrestleMania, tout simplement.
Oui, non mais t'as raison. L'approche est un peu particulière, quoi. Surtout que c'était pas nécessaire, quoi. Voilà. Je trouve que c'était pas nécessaire cette vision de, enfin cette position, ce positionnement en fait de Becky par rapport à Rhea, et surtout que ça, du coup ça fait baisser un peu l'intensité du truc, alors que si elle était arrivée extrêmement forte avec une Rhea dans le sarcasme, dans l'ironie, un peu comme elle fait, comme elle a fait.
Ouais.
Bah, je pense que ça aurait donné beaucoup plus de poids à l'ensemble du truc, quoi, du segment. Enfin, le segment est bon de toute façon. Même avec un segment pourri, on a envie de voir ça. Donc, de toute manière, on y sera allé.
Oui.
Donc, voilà. Mais il y avait
une belle intensité, mais c'était effectivement le positionnement, tu l'as dit, c'est ça, le positionnement de Becky Lynch, le fait qu'elle se rabaisse, qu'elle parte, qu'elle est prise, grosso modo, elle est prise par des tourments, elle n'est plus sûre d'elle, elle doit prouver sa valeur et tout. J'ai trouvé ça un petit peu étrange. En fait, tu aurais pu avoir la même chose, mais de façon avec plus de. Avec
moins
plus
de
d'assurance. Ouais, moins de pathos, plus d'assurance. Elle dit, bah voilà, moi j'ai pas de problème à prouver ma valeur, j'ai pas de problème à aller gagner le Royal. S'il faut que j'aille gagner le Royal Rumble pour me retrouver à WrestleMania face à toi, je vais le faire. Je peux aller voir Adam Pearce, mais j'ai jamais pris la voie la plus facile. Ma carrière, elle s'est construite comme ça, j'ai toujours prouvé ma valeur. Je vais aller remporter le Royal Rumble. Elle n'a jamais gagné le Royal Rumble. Elle ne l'a jamais gagné, si je dis pas de bêtises.
Je crois pas.
En plus, toi, donc si ce que je dis n'est pas une connerie, ce qui arrive, hein, attention, j'ai déjà dit en 2023, il y a des chances que je continue à en dire en 2024. Tu pouvais en plus dire, et en plus, j'ai jamais gagné au Royal Rumble. Bon, voilà, on chipote, mais attention, tu l'as dit, il y a ce match, de toute façon, c'est le golden match, hein, il n'y a pas à chier des bulles. Donc, attention à pas trop en faire, en fait, hein, vouloir nous faire du pathos et de l'underdog. C'est pas, il y a aucune des deux qui est underdog, en fait. C'est les deux patronnes qui vont se rentrer dedans. On a WrestleMania 40, il faut qu'elles arrivent toutes les deux en grosse patronne, grosse daronne, et c'est le choc des titanes, quoi. C'est le choc des titanes sur à WrestleMania. Seth Rollins, je sais pas, le bébé il est où, hein, du coup, hein, parce qu'on passe de
Becky Lynch. Gender. Il y a pas aussi un peu de gender qu'on a dû rater du gender aussi.
Tu as raison. My bad. Avant que j'aille plus loin, il s'est passé plein de choses. On va retourner un petit peu en arrière, un petit peu flashback, parce que sinon je vais m'emporter. Il s'est pas mal de choses avant. On a eu un match tag team entre Chelsea Green, Piper Niven et Indy Hartwell et Candice LeRae. C'était pas bon, ce match, malheureusement. Beaucoup d'approximations, j'ai trouvé. Ces deux équipes que moi j'aime bien, ces deux équipes. C'était sympa, hein. Indy Hartwell, Candice LeRae, Chelsea Green, Piper Niven. Pas de problème.
Chelsea Green, ça vaut que dalle.
Après on est dans la division tag team. Alors attention, il faut être.
Mais certes. Mais quand même, ça vaut que dalle. Mais même assis là dans mon fauteuil, comme on disait tout à l'heure, je peux le dire assez sereinement, sans tomber du menton, ça vaut que dalle. Je trouve que le match n'a pas été terrible, tu l'as dit. Hein. Ça sentait la bonne odeur du botch à l'ancienne chaque fois qu'elle se levait les bras pour s'attraper. Et puis, ça intéresse qui, en fait? Alors déjà, parce qu'il y a un accident industriel sur le fait que de la ceinture. Et puis derrière, franchement, je trouve que le niveau est déplorable, ça n'intéresse personne. Alors, je ne vais pas faire mon fiscal, mais quand même, là, on est au fond du fait tout, quoi, franchement.
On a déjà un Giscal, pas besoin d'en avoir deux. Tu as raison.
Oui.
Pour un match qui avait été booké par une petite séquence backstage derrière avec Chelsea Green et Piper Niven qui étaient venus se plaindre pour être contender face à Kellen Carter et Katana Chance. Ouais, c'est pas ouf. Moi, Chelsea Green, j'adore, j'assume, mais elle aurait tout à gagner à se retrouver une petite carrière en solo parce que là, c'est vrai que c'est la dépression. C'est la déprime dans la division tag team. Il y a du beau monde, mais là, ce match en plus. Bah, il n'était pas bon, ça n'a pas bien fonctionné. Il n'y a pas eu de bon déclic entre les filles. Ludwig Kaiser. Ah là là. C'est le grand retour de Gunther. Le ring général est de retour. Donc, bah voilà. Grosse entrée pour le ring général. Il dit voilà, le Royal Rumble arrive. Il sent quoi ici? Ça sent la défaite. Ça pue le désespoir. Bah, tu vois, juste après le match de la division tag team féminine, peut-être qu'il y avait un message subliminal à faire passer. Il dit voilà, moi je suis parti, j'ai regardé ce qui se passait et tout. C'est quoi ce bordel? Tout le monde est là à se chercher des noises, là, à se gratter pour savoir qui va aller à WrestleMania. Moi, je vais vous le dire, l'année dernière, qui c'est le patron? Qui c'est qui a fait tout le Royal Rumble, là, qui a resté 3 heures dans le Rumble match? C'est moi, c'est le ring général, c'est Gunther, le champion intercontinental, le plus long règne. Et bien, cette année, rebelote, sauf que cette fois-ci, je vais gagner et direction le main event. Sauf qu'il n'a pas fini, il veut. Il a un mot pour Ludwig Kaiser. Alors, Kaiser, il a. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais encore me faire tirer les oreilles. Et bien, pas du tout. Gunther est fier de son lieutenant qui a montré une facette de sa personnalité qu'il attendait désespérément de revoir surgir cette agressivité. Il a géré le problème Kofi Kingston et donc il est très fier de lui. On a Xavier Woods qui va débarquer et dit « Pop, c'est quoi ce problème? Toi et moi, Kaiser, on va régler ça. On va faire un petit match, si tu veux bien. » Et le match s'en est suivi, mon bon Géliel, Ludwig Kaiser face à Xavier Woods. Un match qui va aller jusqu'à la disqualification. Pourquoi? Parce que Xavier Woods, Géliel, il en a plein la patate, plein la tête, plein les baskets de ce Kaiser. Et il va carrément... lui balancer la chaise dans la tronche, comme à coup de chaise, à coup d'escalier, des marches de fer. Les deux hommes se sont bien mis sur la tronche. Hein. C'était un match très costaud, très violent. On reste sur cette lignée là hein, du match face à Kofi. On est dans une feud de violence avec la disqualification derrière et puis Kaiser qui fait un énorme running kick là sur la chaise. Kaiser qui va coucher Woods, on est après le match, hein, sur les marches d'acier. Woods qui parvient à faire un stomp et qui fait fuir Kaiser à travers la foule. Écoute, j'adore ce qu'ils sont en train de faire avec Ludwig Kaiser, qu'ils sont en train de faire avec le New Day. Il y a de la violence, il y a de la rage, il y a du sang. Écoute, c'est pas mal, on n'est pas dans Disney+, là, on n'est pas dans Disney+.
Non, on n'est pas dans Disney+, et en plus, ça se construit pas mal en fait. C'est vraiment intéressant avec des rappels au match précédent, mais cette fois Kofi n'était pas là. En revenant sur le retour de Gunther, effectivement, c'est très sympa le retour de Gunther. L'intro par Ludwig Kaiser est toujours assez mémorable. Mais ring général, et ça c'est toujours très très bon. J'ai bien aimé aussi là le positionnement de Gunther qui arrive. Bon alors les gars, ça pue la loose. De toute façon, je vais mettre tout le monde d'accord, les losers. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça assez drôle. Il prend une assurance vraiment qui sert le show, quoi. Qui est vraiment super sympa, sur lequel on peut s'appuyer. Et je trouve qu'il avait pris une dimension assez dingue. Donc vraiment, j'apprécie. La faction marche bien en plus hein, avec Ludwig Kaiser. Giovanni était pas là, mais bon voilà. Ça marche plutôt bien, je trouve. Et puis bah là, du coup, ils nous construisent un truc avec le New Day, avec les deux New Day. Micro spoiler, non ouais. Est-ce que parce que Giovanni il est quand même susceptible de revenir n'importe quand.
Oui, non pour venir n'importe quand. Si dans deux semaines il se sent bien, il y a pas de problème. Hein.
Ce qui veut dire qu'avec quelqu'un qui est aussi qui pourrait revenir.
Du New Day. Oh là là. Et ouais. Connu des et blessures, oui, ouais, des fortunes diverses, mais qui les ont mis sur le carreau et que. Oh là là là, tu veux nous vendre du rêve là, Géliel. Attention, calmez-vous.
Mais oui, parce que l'Imperium c'est une faction à trois. Et voilà. Ouais. Et du coup, à WrestleMania c'est dans 3 mois. Dans combien? 2 mois. Donc, ouais, voilà, moi j'aimerais bien.
Alors, enfin, génial. Excuse-moi là, de gâcher tes rêves, mais attention, il ne faut pas oublier qu'un homme s'est inséré aussi dans cette rivalité. Jay, main event, Jay Uso, puisque Xavier Woods s'est fait attaquer backstage, c'est Jay Uso qui est venu en renfort et donc qui a fait fuir le Kaiser, hein, le Ludwig, comme dit le ring général, Ludwig. Donc Jey Uso là, il se fait une petite place là aussi dans cette pourrait aller chercher Gunther, on en parle,
Jey
Uso qui... Ah, je comprends. Ah oui. Mais ce serait pas mal quand même. Ce serait pas mal.
Ah mais ça serait pas mal quand même, puis en plus il lui faut un programme. Je suis d'accord. Mais j'aimerais bien que ça nous tease plutôt un 3-3 avec le retour, voilà. J'ai envie de ça.
Moi, je te propose un truc. Si on fait pas notre Jay versus Jimmy à WrestleMania 40, on nous fait Jay versus Gunther à WrestleMania 40. Jay qui remporte le titre face à Gunther, et derrière on enchaîne Imperium versus New Day, un programme entre les deux factions sans la ceinture peut-être. Ou alors Jay n'arrive pas à battre Gunther. Mais voilà, peut-être qu'il n'arrivera pas à le battre. Hein.
Jay n'arrive pas à Gunther.
À cause de Jimmy.
Le New Day arrive pour défendre Jay. Et puis finalement, il y a trop de choses qui sont en train de s'écrire dans ma tête.
Et puis alors Biggie qui revient suivant. Et qui irait faire tomber Biggie qui fait.
Voilà, c'est ça.
Oh là là. Alors que sa carrière a été terminée. Ah, ce serait énorme. Là, ce serait énorme. Mais bon, on va parler du réel. Là, on est aux frontières du réel. On est en train de se perdre avec les extraterrestres. Là, on est en train de raconter du grand n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on a eu Tozawa versus Ivar ce soir. Ça, c'est le réel. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du vrai. Et dire le réel est parfois encore plus fou que l'irréel, puisque c'est Tozawa qui a gagné. Voilà. En faisant une sunset flip bomb sur le Viking pour le compte 2-3, donc c'est du grand n'importe quoi. Enfin, c'est marrant, mais il ne faut pas trop en abuser de ce genre de choses. Ces petites surprises qu'on glisse parfois comme ça. Parce que bon, Ivar, il était quand même sur une grosse streak de grosses victoires. Hein. Il fait tomber les gros, mais alors le petit japonais, il n'a pas réussi. Derrière, ça se bagarre à l'extérieur. On a notamment Valhalla et Dupré qui se mettent sur la tronche. Et puis l'Alpha Academy qui n'est pas contente, backstage. Valhalla qui a rendez-vous avec Ivy Neal qui va vouloir affronter Valhalla. Chad Gable est pas content. Tout le monde est remonté. Chad Gable versus Ivar aussi. Voilà, ça se programme. Écoute. Ça tourne un petit peu en rond, c'est la mid-card qu'on aime, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est arrivé plus vers la fin que vers le début avec cette histoire des Vikings versus l'Alpha Academy. On y retourne encore un petit coup. Bon, en attendant, on est sur le chemin tranquille là, du Rumble où on prend pas trop de risques sur les storylines. Sur ce genre de storyline de mid-card, low-card, quoi. On est sur du très très simple. On continue. Je reprends le cours, hein, parce que du coup, je reviens avec Seth Rollins. J'ai le droit de parler de Seth Rollins, ça y est, c'est bon.
On est bon.
Bon, toujours pas de nounou. Bah si, c'est Jinder. T'as dit c'est Jinder qui l'a mis dans son écharpe, comme ça, il porte la petite, il la berce. Il lui fait des petites comptines indiennes. Ce serait excellent. J'ai envie de voir ce genre de scène, toi, où il est en train de faire la babysitter. Mais bon, ce soir, le bébé qui veut récupérer, c'est le titre de champion du monde poids lourd. On a Seth Rollins donc, qui nous fait une petite promo d'avant-match, même si le match a lieu un petit peu plus tard. Il va défendre son titre, il se sent chaud. C'est un champion qui se bat, hein, même en weekly. Jindermal, c'est pas leur première danse, comme il dit. Ils se sont battus tous les deux, affrontés hein, pour être champion NXT. Mal est un ancien champion WWE, donc il est revenu, c'est la meilleure version de Jinder Mahal. Donc voilà, notre petit Seth Rollins, il est sympa, il a mis over Jinder pour le main event. Mais on en reparlera plus tard si tu veux bien qu'on arrivera vraiment au main event. Même si Jinder Mahal entre temps a eu également droit à son interview, il a dit voilà, c'est 12 years in the making, hein, comme ils disent, pour arriver à ce soir. Ça fait 12 ans qu'il se prépare pour ça. Il nous rappelle qu'il a battu Orton et ce soir qu'il va battre Seth Rollins. Bon, on garde ça pour le main event. En coulisses, on a eu Shinsuke Nakamura qui nous annonce qu'il va être au Rumble. Rien de très intéressant à ce niveau-là, même si l'histoire avec Cody ne semble pas terminée. Et ça me fait dire que Cody, le Rumble, Je ne sais pas si ça va bien se passer pour lui. Hein. Je ne sais pas si ça va bien se passer pour lui. Peut-être que tout ça, c'est histoire que le japonais... Ouais. Ouais, allez, moi, je fais mon hot take, c'est que Nakamura versus Cody, ça va être une affiche à WrestleMania. Ouais, ouais, ça fait peur dit comme ça, mais...
D'ailleurs, personne n'a réagi dans l'assistance.
Je suis désolé, mais... Disons, alors, je vais te dire, voilà, pour l'instant, je ne vois pas mieux pour Cody que d'affronter Nakamura dans une stipulation complètement ouf, avec peut-être des trucs, enfin voilà, tout un décorum, quelque chose qui montrerait que c'est un match très très important cette fois-ci, parce que je vois pas d'autre programme pour Cody Rhodes à WrestleMania avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Les places sont chères. Bref, ouais. Ça me fait un petit peu peur. Après, on a placé d'autres... Voilà, il n'y a pas que ça, mais ça me fait peur. Ils me font peur. Il me fait peur, le japonais. Un match tag team. Shayna Baszler, Zoe Stark affrontent Natalya et Tegan Nox. Ça aussi, ça veut se positionner pour le championnat. C'est Shayna Baszler et Zoe Stark qui ont gagné. Voilà. Il n'y a rien de particulier à dire sur ce match. Natalya a abandonné.
Par contre, j'apprécie. Je sais pas qu'est-ce qui va être donné comme programme à Zoe Stark, mais j'apprécie bien.
Ah oui.
Voilà. Donc.
Zoe Stark, c'est ma petite chouchou pour moi. Voilà, c'est la petite qui une des rookies de l'année dernière qui s'en est le mieux sortie. Retombée un petit peu en intensité. Voilà, elle s'est remise. Quand tu te retrouves en équipe avec Shayna Baszler, c'est pas forcément. Super pour ta carrière, parce que c'est-à-dire tu vas végéter dans la low card de la division tag team féminine. Mais Zoe Stark, c'est de l'intensité, elle est super à l'aise, elle a un personnage qui est vraiment cool. Moi je dis banco, hein, Baszler, Stark, allons-y.
Ouais, soit en tag team, soit en solo. Et puis je mettrais bien un petit billet cette année également sur Ivy Neal qui.
Oh là là.
J'ai jamais assez. Ouais, j'écoute.
Alors là, par contre, c'est la grosse cote, hein, mon bon génial. Tu te rends compte que là, tu peux gagner beaucoup, mais perdre beaucoup avec ce pari.
Non, parce que je vais pas mettre lourd, mais je vais pas perdre beaucoup.
Ah, t'y crois, mais voilà, t'y crois avec le cœur. Tu crois qu'avec le cœur, mais pas
oui,
plus
voilà,
plus
je... voilà. Donc, voilà, je... on verra. Parce qu'en fait, c'est suite à ce petit match-là, il y a justement une petite annonce qui a été faite de.
Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui a été annoncé?
Non, sur les prochains matchs qui auraient lieu pour le dernier Raw avant le Royal Rumble, mais t'allais certainement en parler.
Peut-être. Ivy Neal contre Valhalla. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est toi qui. D'accord, ok. C'est ça ce match-là auquel tu pensais
okay. Non, je ne pensais pas à ce match-là, mais en tout cas, le fait d'avoir Ivy Neal dans la picture sur 2024, voilà, je n'avais pas ça d'un mauvais œil.
Ah, ok. Bon, là, il faut qu'elle se trouve un personnage, il faut qu'elle se trouve de l'assurance, mais elle a une place à faire, Evelyne. Elle a un personnage, puis bon, elle est bien entourée. Elle n'est pas toute seule dans son coin, donc pourquoi pas. Allez, c'est un pari sur l'avenir. On arrive au main event, enfin, mon bon Géliel. Hein. J'ai rien loupé. Donc, on a eu les deux promos de nos catcheurs hein, qui vont s'affronter ce soir. À ma gauche, Seth freaking Rollins, votre champion poids lourd. Et à ma droite, Jinder Mahal, le Maharaja des temps modernes. 12 ans pour arriver à ce match ce soir. Et Jinder Mahal, écoute, nous, voilà. Il y a des fans ici à Ketchup de Jinder Mahal. On l'aime, voilà. Comme c'est Baron Corbin, c'est Jinder Mahal. Voilà. C'est des méchants de mid-card, des méchants qu'on aime détester, qui font du bon boulot. Voilà. Des gars sûrs. Et ce soir, Jinder Mahal, il va mettre toutes ses chances de son côté pour aller décrocher le titre de champion poids lourd. Sauf que Damien Priest est là avec sa mallette. Senior Money in the Bank, il se positionne en ringside et ça pendant le match, on commence à avoir peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer ce soir. On arrive, Rollins qui va placer son pedigree, mais on a aussi les Indus Shir qui débarquent également. Aïe. Ah, ils étaient là avant, ils sont arrivés, ils sont arrivés avec Jinder Mahal dès l'entrée. Je ne sais pas pourquoi je parle d'eux comme s'ils étaient arrivés en plein de match. Rassurez-vous, ils étaient là, arrivés avant le début du match, Gilles. Ce qui pouvait lui dire, ah, rajouter, c'est malin. Rajouter un petit peu de chance de côté de Jinder Mahal de ramener ce titre justement à la maison. Donc Indus Shir qui va intervenir hein, pendant le match pour aider le Modern Day Maharaja. Rollins qui va se lancer survivre justement pour l'éliminer. Le splash est placé et balancé, mais mal, les vite. Damien Priest est là, tel un vautour, un rapace, là, prêt à se jeter sur sa proie. Mais Drew McIntyre arrive en jean. Voilà, en Levi's 501. Boum! La clébord, c'est parti, c'est le bordel. Je sais pas s'il passe du clébord tout de suite. Non, ils se mettent des coups sur la tronche, des gros coups de poing, des grosses patates. C'est le bordel. Les Indiens en profitent pendant que l'arbitre est distrait. Mal attaque Seth Rollins. Ce n'est pas suffisant. Derrière, on a l'arbitre qui sort tout le matos parce qu'il y avait des chaises qui étaient sorties. Alors, il balance les chaises. Rollins se prend un énorme coup de mallette. Là, full Nelson Slam est placé sur Rollins. Rollins qui résiste. On arrive sur la fin. Indushir qui est là. L'arbitre qui les expulse. Mal qui se relève. Il place son finisher. Le Colosse qu'il avait déjà placé une première fois. Le Colosse qui est une prise dont personne ou presque, hein, je crois, ne s'est jamais vraiment relevé. Hein. C'est une prise, c'est un peu comme le End of Days de notre ami Baron Corbin. Ben voilà, voilà, une autre comparaison que j'avais faite précédemment. Comme quoi, je dis pas que des conneries. Voilà, c'est des mid-carders assez marrants parce qu'ils ont leur finisher assez protégé. Et ben ce soir, Rollins, il parvient à s'en sortir. Il le repousse, il éjecte Jinder Mahal. Il place le stomp derrière, pardon, évidemment, il va pas gagner comme ça, pour la victoire, 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins, qui reste donc notre champion du monde poids lourd. Jusqu'où va-t-il aller comme ça?
Oui, 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 eh ben, c'était un super main event, un sacré match, avec ce qu'il fallait d'overbooking, plus la petite bagarre entre Damien Priest et puis Drew McIntyre qui arrive dans la foulée aussi. Non, très très sympa. Les deux sidekicks qui interviennent, tout ce qu'ils peuvent. Alors eux, contrairement, il faudrait peut-être qu'ils filent des cours à Damage Control pour expliquer comment on aide son leader en difficulté.
Prenez des notes, ma fille.
Oui, prenez des notes. Alors, pas aller trop loin, parce que du coup, ils se sont fait virer comme des malpropres à la fin.
Oui, oui.
Mais
oui.
Quand même. Mais quand même, et puis non, super match. Par contre, petit bémol, on l'a vu sur la toute fin de match, et d'ailleurs je sais pas si la fin a pas été un peu précipitée, mais je crois que Seth Rollins il a boité relativement bas sur la fin de match. Il y a eu une réception qui a dû être assez ratée, il s'est blessé, je crois avoir lu.
Ouais. Il a vendu son genou, et même les commentateurs en ont parlé. Donc qu'est-ce que c'est, du shoot, du kayfabe, est-ce que c'est vrai, on ne sait pas.
Ouais, donc voilà, mais en tout cas, effectivement, Rollins conserve versus un Jinder Mahal qui, je suis d'accord avec toi et avec certains, est quand même globalement sous-coté, sous-utilisé, tout ce qu'on veut. Alors, c'est pas un Hall of Famer éternel, non. Ok. N'empêche que il a toutes les cases du bon heel qui peut faire le taf. Il a le panel de micro qui est capable de faire du méchant, mais en étant capable, on l'avait vu certaines fois aussi, avoir des comportements un peu surpris à la limite du comique, mais enfin il a un panel de skills qui sont assez intéressants, qui est assez intéressant, et puis in ring ça tient largement la route, quoi. Ça tient largement la route parce que le gaillard il est quand même grand, il est ultra balèze, voilà, il est capable d'en rendre à n'importe qui dans le roster main event facilement, quoi. Ouais. Voilà, donc un affrontement très sympa qui a été bien construit aussi parce qu'ils se sont pas mal parlé, il y a eu pas mal d'échanges. Voilà, Jinder retourne, je pense, dans les tréfonds du tréfonds.
Oui, Seth Rollins continue. D'être venu, quoi.
Exactement, et d'avoir occupé ces deux mois de manière assez efficace. Et puis Rollins, on va voir ce que ça va donner. Si effectivement il est blessé, voilà. Pas. Mais en tout cas, c'était très sympa, très très sympa avec toute cette histoire, plus les ajouts, plus tout ça. Donc, un Raw qui se termine en apothéose pour moi.
Bah ouais, voilà, la menace, le danger pour Seth Rollins, c'était très très faible évidemment face à Jinder. Mais justement, chapeau pour avoir réussi à nous proposer un main event avec de l'action, avec pas mal de petits rebondissements. Ils avaient tout mis, hein. Ils ont tout mis. Ils ont mis la menace de Senior Money in the Bank. Ils ont mis les deux Golgoth qui apparaissent au dernier moment pour aider le patron. Ils ont mis Drew McIntyre qui est venu nettoyer et foutre le bordel. Voilà, il y a eu des distractions, il y a eu des coups de chaise, il y a eu voilà, des simplement deux. C'était très efficace, j'ai trouvé, par rapport à ce que, à la hype qui supposait de ce main event. Donc, j'ai trouvé que tout le monde a réussi à rendre une belle copie pour
et je rajouterais
un main event qui vendait pas du rêve à la base.
Exactement, parce que je rajouterais que au final, toi, je sais pas, mais moi, à aucun moment on a tremblé pour quoi que ce soit, quoi.
Non, bah non.
Qu'on soit clair. Et pourtant, que ce soit la construction ou que ce soit le match en lui-même, tout ça s'est fait dans une espèce de simplicité assez saine, qui fait que on va jusqu'au payoff dont on sait la fin, on connaît la fin de l'histoire. Mais pour autant, on y allait avec. Moi, j'y suis allé avec le sourire et ça s'est bien passé, en ayant même quelques regrets sur le fait de dire putain, Jinder Mahal, ok. N'empêche que, voilà, il a fait le taf, et il a bien fait le taf, et il nous a divertis, comme je disais, pendant 2 mois, là, où il est arrivé tout énervé, tout avec ses sidekicks. Et c'était très bien. Voilà. Donc, c'est bien réussi. Donc, j'ai bien apprécié le moment.
Bravo, 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 bravo Jinder Mahal. Voilà, je ne sais pas si on aura l'occasion de le redire en 2024, mais bravo à lui. Mission accomplie pour notre freelance préféré, Jinder Mahal. Et ben voilà, c'est comme ça que termine ce show rouge. C'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon bon Géliel. Distribuer un flop, un top, une note. On sait que voilà, c'est Monday Night Raw. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a sûrement du choix. Des fois, à SmackDown, on ne sait pas trop. Mais alors là, à Raw, on a du choix. L'embarras du choix pour toi.
Alors, je vais mettre mon top.
Ouais. À qui?
À Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Je trouve que j'ai été vraiment, vraiment super. J'ai vraiment, vraiment apprécié leur match contre Dominic Mysterio et McDonagh. Ouais. Je trouve
probablement
que
match en équipe depuis que l'équipe s'est reformée. À vrai dire, c'est vrai qu'on n'a pas passé beaucoup de temps sur le match, mais c'était un match plein d'action et une équipe qui était bien soudée. Tu as raison de le souligner.
Exactement.
Ok.
Et du coup, petite mise en visibilité en leur proposant ce top-là, parce que franchement, j'ai vraiment apprécié l'opposition. En plus, ils gagnent, l'opposition qu'ils ont faite à Mysterio et JD. Non, vraiment un très, très bon moment passé sur ce match-là. Ce sera mon top pour eux. Le flop, j'hésite entre... Il y a deux matchs qui étaient catastrophiques, là, côté féminin. J'ai du mal à savoir si c'est de l'écriture, si c'est du niveau global d'athlète. Certains cas, oui. Dans d'autres, c'est tellement mal amené que ça embarque pas. Et du coup, on n'arrive même pas à se dire « Allez, le truc va être sympa, ils sont foutus sur la gueule ou ça raconte quelque chose. » Du coup, en dehors de la vraie scène main event et puis ceinture, le reste, il y a un gap mais incroyable parce que justement, en écho avec ce que je viens de dire, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, c'est que dalle. Ils sont pas prêts de voir de près ou de loin une ceinture ou un titre de quoi que ce soit pour le moment. Ils n'ont pas eu d'été non plus depuis un moment, quoi. Pour autant, ils arrivent à sortir des trucs sans grosse écriture, quoi. Là, le Chelsea Green, Heidi Hartwell, Candice LeRae, Piper Niven, tout ça... C'est très très mauvais, quoi. Donc je pense quand même qu'il y a une dimension athlétique, performance technique, niveau de catch, quoi, qui joue, mais peut-être qu'il faudrait faire aussi un effort d'écriture supplémentaire pour enrober un peu le tout quand il y a certaines limites au niveau in-ring, quoi. Je sais pas. Donc pour faire court, mon flop, je le mettrais à la division féminine, middle card, on va dire middle low card. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a qu'une low card, en fait, il n'y a pas de middle card.
Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de niveaux, il n'y a pas beaucoup d'étages dans la maison de la division féminine, encore moins.
Le premier et le sous-sol, quoi. Voilà, on va dire.
Ouais. C'est vrai qu'en plus, on a deux matchs tag team ce soir, donc on va
s'accrocher. Donc, un flop au sous-sol de la low card féminine qui ne cesse de nous décevoir. Et puis, ma note, je mettrai un 3 pour l'irrégularité. Le main event était bien, il n'y a pas de souci. Par contre, on est passé quand même par des hauts et des bas. Alors, c'est normal avec un show plus long, avec un show plus varié, il n'y a pas de souci. Avec un show aussi qui, du coup, est moins construit. Et puis surtout, il y a eu un gros coup de mou après toute la partie de Judgment Day avec Artrus, etc., qui était sympa. Après, il y a eu quelques moments de trou qui ont fait que j'ai eu un peu plus de mal à tenir sur la durée, donc 3 parce que main event et puis parce que Ertrus, etc.
Il mérite quand même. Ok, c'est une note qui me paraît pas mal du tout. Une fois de plus, bah, je vais me coller à cette note aussi, un bon 3, pour les mêmes raisons que toi. Moi, mon flop, bah écoute, j'hésitais. Enfin, non, j'hésite pas. Moi, je vais le donner à Andy Hartwell et Candice LeRae en particulier. Parce que ce sont deux catcheuses que j'ai beaucoup appréciées quand elles étaient à NXT, notamment dans leur faction. Bah, toi, tu parlais de Gargano. J'étais dans sa faction The Way, hein, qui nous avait bien fait rire, et tout en nous proposant de l'action, de l'humour, il y avait plein, voilà, ça marchait bien, c'est un beau cocktail. Là, bah voilà, typiquement, elles avaient one shot, voilà, une opportunité ce soir, dans le ring et aussi dans des séquences backstage, de montrer qu'elles en avaient vraiment, qu'elles avaient vraiment la niaque. D'ailleurs, c'est ce qu'elles disent, hein, 2024, ça va être notre année. Écoute, avec ce que vous m'avez montré là, je suis pas sûr. Hein. Pas sûr. Donc, c'est un flop qui m'embête parce que j'ai. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que justement, ils m'avaient bien amusé à NXT. Hartwell et Candice LeRae, je les trouve très cool, tout en sachant qu'elles ont un niveau, voilà, qui est le leur. Mais là, elles ont complètement loupé le coche. Autant Chelsea Green, Piper Neville, elles ont eu le temps déjà.
Elles ont raté l'opportunité.
Voilà, les deux autres, on les a déjà vues, elles sont installées, quoi. Elles ne le sont pas, et bah, elles commencent mal l'année. Donc, contrairement, effectivement, à leur contrepartie masculine, presque, hein, avec Champagne et Gargano, hein, c'est des poteaux, ils se connaissent bien. Là, ce soir, à la maison, il va falloir discuter et s'échanger un peu les trucs et astuces, parce que elles n'auront pas 50 opportunités comme ça, quoi. Donc, il faut saisir sa chance et assurer, quoi, derrière, assurer.
Ouais, je vais dans ton sens complètement, hein, mais ce qui ressort, c'est que tu sens quand même une espèce de manque de travail, quoi, ou d'implication, ou de ce que appelle ça comme tu veux, quoi.
Oui.
Parce que, ok, t'as des gars qui se connaissent depuis des années, mais quand, enfin, tu travailles, tous les jours, etc. Enfin, à un moment, tu peux pas accepter ça, quoi, ce niveau-là.
C'est vrai qu'elles sont arrivées, t'as l'impression qu'elles n'avaient rien préparé, quoi. Pas le match. Voilà. Pas de promo, pas de personnage, pas d'intensité. C'est peut-être aussi, voilà, la différence entre, comme on dit souvent, la différence entre ceux qui en veulent vraiment, toi, qui sont investis à fond, et ceux qui suivent ce qu'on leur dit sans réfléchir plus loin, et du coup ça transparaît tout de suite à l'écran. Et là on tape sur la division féminine, mais on a les mêmes problèmes aussi côté masculin. Il y a plein de mecs que on voulait voir réussir et qui finalement, en fait, étaient pas motivés, et dès que ça n'allait pas dans leur sens, ça se voyait tout de suite à l'écran, hein. Donc j'en place une pour toi, Rousseff, hein, mais voilà, il y a des moments, il faut saisir les opportunités, même si on te balance des trucs pas terribles, même si t'es dans les limbes de la division féminine, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et pour ça, du coup, moi, mon top, je vais le donner à Xavier Woods et Ludwig Kaiser, qui, eux, ont saisi l'opportunité qui leur a été donnée. Alors, bon, les mecs, ils sont quand même bien placés. Xavier Woods, il est là, c'est un vétéran, hein, maintenant. Mais c'est un autre programme, là, qu'attend Xavier Woods. C'est autre chose. Un visage de Xavier Woods qu'on n'a jamais vu. Eh bien, ça a été direct dans l'intensité, ça a été direct dans la violence, et j'ai trouvé ça super. Et puis, bon, un petit clin d'œil, évidemment, à Jinder Mahal, qui nous a fait bien plaisir ce soir. Jinder, notre top à jamais dans nos cœurs. Ma note, je l'ai donnée, c'est un 3. Bon, allez, c'est comme ça qu'on se quitte sur ces belles paroles sur notre canadien préféré, Jinder Mahal.
Oh, canadien.
Oui, un indien du Canada préféré. Je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE chaque semaine. C'est gratuit, il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. On est également vite présent sur YouTube. Les réseaux sociaux, vous les connaissez, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up, CDC. Le lien vers notre Discord où on tape la discute sur... Le catch, le lien est dans la description. Je te remercie, Géliel, d'avoir accepté mon invitation dans les studios. Même si tu as les clés, tu n'as pas besoin d'invitation pour venir, mais ça fait plaisir d'être avec toi là, à échanger comme ça sur l'art terrible de la lutte professionnelle.
Exactement. Bah, écoute, merci Irène pour l'invite et effectivement pour ce bon moment passé à résumer les deux shows. On se dirige tranquillement, on est parti, là on est au milieu du janvier, on a le Rumble qui arrive, la route vers WrestleMania qui s'annonce, qui se trace, qui se dessine devant nous. Il y a que du bon qui arrive, donc on n'est pas prêt de lâcher, et donc du coup, alors je vais ranger mon slip pour cette review, mais je suis prêt à le ressortir très prochainement pour les prochaines.
Les gens, les auditeurs vont se poser des questions sur ce qui se passe dans le studio. Mais écoutez, je ne peux pas vous dire parce que nous enregistrons dans le noir, justement, pour éviter de voir des choses qui nous entraient.
C'était une des conditions à ma venue ce jour, tu le sais, hein, en plus.
Il y a un dress code à respecter, bordel. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut à tous.
Bon, bah si c'est comme ça, je vais remettre mon slip aussi alors.